Bonsoir, bonjour à tous. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix, la grâce et la miséricorde soient notre partage. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce moment. Je bénis le Seigneur pour chacun de vous. Que ce soit ceux qui l'écoutent maintenant ou ceux qui vont écouter cette parole plus tard. Que le Seigneur vous bénisse. Et surtout, que le Seigneur vous révèle sa vérité, sa parole. Amen. Alors nous prions d'abord pour que le Saint-Esprit nous conduise, pour que nous puissions vraiment entendre ce que le Seigneur nous a préparé ce soir. Père, nous te bénissons, nous t'élévons, nous te glorifions et nous te disons merci pour ce moment. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ton Esprit Saint qui nous conduit et qui nous éclaire, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui nous instruis. C'est toi qui nous révèle des choses, qui nous révèle ta parole. Papa, que ton nom soit béni. Nous prions pour que ton Esprit Saint nous remplisse et aussi, Seigneur, dispose nos cœurs, nos âmes, nos esprits, afin que tout ce que tu as prévu, préparé pour chacun d'entre nous, puissions le recevoir, Papa. Te disons merci Seigneur, viens prendre le contrôle de tout ce qui va se passer et que tout ce qui va sortir de ma bouche soit selon ta volonté, seulement ta volonté. Nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Sans trop tarder, on va commencer. Comme je disais, je bénis le Seigneur pour sa parole. C'est une parole puissante, c'est une parole vivante. On l'écoute aujourd'hui. Ce que nous allons recevoir, peut-être même le même verset, ça va être différent si on le réécoute la semaine prochaine ou dans un mois, parce que c'est une parole qui est vivante, donc elle n'est pas inerte, elle est intemporelle. Alors, que le Seigneur soit béni pour sa parole qui nous vivifie, qui nous éclaire dans ce que nous faisons, dans notre cheminement avec lui. N'eût été sa parole, nous serions perdus. Mais là, heureusement, le Seigneur est bon. Il s'occupe bien de nous. Il nous connaît très bien et il sait ce dont nous avons besoin. Aujourd'hui, nous allons parler de sacrifice. Il y a plusieurs volets quand on parle de sacrifice. C'est un mot qui est tellement riche. Un sujet qui est tellement vaste, on ne peut pas parler d'un coup pour pouvoir finir comme ça ce thème ou ce sujet. Mais ce que le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui de vous partager, c'est vraiment comment nous pouvons offrir des sacrifices. Le sacrifice, quand on regarde l'Ancien Testament, il y a vraiment, c'est bien expliqué les instructions que le Seigneur avait données à Moïse concernant les enfants d'Israël, comment procéder, à quel moment, pour quelle situation. Si on lit, je vais le lire quand même, c'est long, c'est dans le livre des Lévitiques, oui. Du premier chapitre jusqu'au 5, ça parle vraiment des sacrifices. Si vous voulez comprendre, c'est bien détaillé, c'est bien expliqué comment le Seigneur avait donné les instructions aux enfants d'Israël pour lui donner des sacrifices. Donc, des sacrifices, des offrandes, dépendamment de la situation, des fois on parle de sacrifices, des fois on parle des offrandes. Ou sacrifice, même quand il s'agit d'actions de grâce, il y a plusieurs sortes. Le Seigneur avait vraiment bien détaillé ce qu'il fallait faire. Ça, c'est par rapport aux enfants d'Israël, en passant par Moïse. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres situations que nous allons voir aujourd'hui qui vont nous aider à nous en ce moment, nous qui cheminons avec le Seigneur, nous qui avons donner nos vies à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, comment nous pouvons lui offrir des sacrifices? Mais on va d'abord commencer par l'Ancien Testament parce que tout découle de là. Et c'est comme une base. Jésus-Christ disait que c'était l'Ancien Testament, c'est l'Ancienne Alliance, c'est l'ombre de celui qui allait de ce qui allait venir, donc celle qui allait venir, la nouvelle alliance. Mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas important de comprendre, parce que en comprenant l'Ancien Testament, on va aussi comprendre le nouveau, parce que c'est comme une continuité, même si je veux dire, c'est ça va nous aider à nous mettre en contexte du Nouveau Testament. Si on comprend très bien l'Ancien Testament, ça nous met en contexte du Nouveau Testament et ça nous aide à bien comprendre. C'est pour cela que j'ai commencé par l'Ancien Testament pour que nous puissions bien comprendre ce texte ou ce thème ou ce sujet. Parce que c'est quand même assez vaste. Donc, on peut parler de sacrifice dans plusieurs domaines, mais ce que je veux partager aujourd'hui, c'est vraiment nous, en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce que nous avons à offrir comme sacrifice? Alors, dans l'Ancien Testament, on va voir que c'est, si on fait beaucoup plus attention, on va voir que le Seigneur demandait des choses externe de nous, de notre corps, de notre personne. On va voir que, comme je disais dans les Lévitiques, chapitre 1 à 5, si vous avez le temps, vous pouvez le lire. Vous pouvez voir que à chaque chose, à chaque situation, il y avait une offrande spécifique, un sacrifice, holocauste. Il y a plusieurs appellations. Et c'est toujours un animal ou quelque chose de végétal qui était demandé. Donc, disons que quelqu'un a péché. Il y avait un sacrifice, un holocauste. Le Seigneur demandait à ce que cette personne apporte un taureau ou un agneau sans défaut, dépendamment, parce que selon la gravité du crime, l'offrande était décidée, disons, selon la gravité du crime ou selon la nature du crime, on va dire. Donc, du coup, il n'y avait rien de personnel qui était demandé, c'était vraiment comme on va dire, du bétail ou de la plupart du temps c'était du bétail ou des encens ou la farine ou l'huile, des choses comme ça. Il n'y avait pas vraiment quelque chose de spécifique, personnel, qui est vraiment qui touche la personne directement. On va voir qu'après il y a certaines quand même situations où c'était quand même assez touchant. J'avais mis un texte dans Genèse avec Abraham, quand Dieu lui demanda de sacrifier son fils unique. C'était pas son fils unique, mais c'était le fils de la promesse. Abraham n'a pas hésité. Abraham n'a pas hésité et il a vraiment il a accepté, il a obéi. On va d'ailleurs le lire maintenant et après on va voir qu'est-ce qui s'est passé exactement par rapport à ça. Je vais pas lire tout, je vais lire ce que j'ai mis sur la toile, mais vous pouvez aussi continuer pour voir comment l'histoire finit. mais on va voir l'essentiel. Alors, ici, le Seigneur demande à, il dit à Abraham, Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moridja et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, Mon père. Et il répondit, Me voici, mon fils. Isaac reprit, Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Bonne question. Où est l'agneau? Donc Isaac ne se doutait pas que c'était lui qui était destiné à être tué par son propre père. Et pourquoi il voulait tuer son fils? C'est parce que Dieu lui avait demandé de lui offrir son fils. Et Dieu savait, en fait, même comment dire, le titre, c'est écrit que Dieu metta Abraham à l'épreuve. Dieu a mis Abraham à l'épreuve. On se rappellera comment Isaac est né, dans quelles circonstances, après combien d'années qu'on l'avait attendu. Et voilà que maintenant, il est un peu, il grandit un peu, devient de plus en plus jeune, adulte, et le Seigneur lui demande de le sacrifier. Demande à Abraham de sacrifier Isaac. Mais Abraham n'a pas hésité, sachant tout ce que le Seigneur lui avait dit avant. Il lui avait dit qu'il sera le père des nations, qu'il aura un fils et que c'est par ce fils qu'il va devenir justement le père des nations. Mais en même temps, Dieu revient et lui demande de le sacrifier. Mais Abraham n'a pas hésité. Il n'a pas hésité d'exécuter la demande de Dieu. C'est là où on comprend que il y a beaucoup, beaucoup de choses que la plupart du temps, on ne comprend pas. Abraham avait compris la demande de Dieu parce que il s'est accroché à la parole de Dieu. C'est cette parole que le Seigneur lui avait dit, tu seras le père des nations. Il lui a montré les étoiles du ciel. Il lui a parlé du sabre de la, du sable, sabre de la mer. Le sable, c'est infini, c'est un nombre incalculable. Il lui a dit le sable de la mer, les étoiles du ciel. Ta descendance sera comme ça. Mais après cela, Dieu vient et dit, mais il faut que tu m'offres Isaac. Abraham se rappelant de la parole de Dieu, il a dit, OK, c'est toi qui me l'as donné, je te le donne. Je vais te l'offrir. Mais dans son cœur, lui disait, quand si on continue à lire, lui, il pensait que peut-être il va le tuer, mais Dieu va le ressusciter. Mais quand même, dans ce doute, dans ce questionnement, il a dit, OK, Dieu lui a, lui, lui, Dieu m'a demandé de le sacrifier, je vais le sacrifier. Mais après, c'est lui qui va savoir comment que c'est quoi la suite. Moi, la suite, ça ne me concerne pas. Moi, la suite, je ne veux même pas savoir. Tout ce que je sais, c'est que il sait ce qu'il fait. C'est cette attitude qui est vraiment, comment dire, incroyable, surprenant, venant de d'Abraham, parce que c'est difficile de lâcher prise. Donc il n'a pas cherché à réfléchir, il n'a pas cherché à calculer, à questionner le Seigneur, mais il a juste lâché, il a dit, OK, mais moi je vais te le donner. Tu sais qu'est-ce qui va se passer après. Et même quand il partait, quand il marchait, personne ne savait, que ce soit ses serviteurs, que ce soit Sarah. Et j'imagine que si Sarah avait su, certainement qu'elle n'aurait pas permis qu'il puisse amener Isaac vers cette montagne-là. Mais il n'a rien dit à personne. Là où qu'est-ce que je vais relever là-dessus, c'est que on a des promesses, on a des paroles que le Seigneur a prononcées sur nous, on a des prophéties. Et nous, la plupart du temps, on est là en train de les partager, en train de parler, en train de les étaler. Et on ne sait pas ce que notre entourage va faire de ça. On ne sait pas qui écoute ça. On ne sait pas le cœur qui est derrière ces racontants-là. Si moi, je raconte ma vie à quelqu'un, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire avec. Mais ce qui est sûr, j'ouvre une porte. Je viens d'ouvrir une porte qui permet à l'autre de rentrer dans ma vie, de rentrer dans ma bulle, comme on dit ici, de savoir ce qui se passe. Il y a des choses qu'on ne peut pas étaler. Il y a des choses qu'on doit garder pour nous. Surtout les choses avec Dieu. Surtout les choses, surtout les paroles ou notre proximité avec le Seigneur doit rester personnelle. Même les frères et sœurs en Christ, il faut faire attention. On continue. Abraham part seul avec son fils et ses serviteurs, mais il n'a dit à personne. Même son fils, il a rien dit. Il a dit, Dieu pourvoira, Dieu va donner un agneau. Sachant que Dieu a demandé Isaac, sachant que dans quelques secondes ou dans quelques minutes, il va l'égorger. Mais il n'a laissé rien paraître, il n'a rien. Qu'est-ce que le Seigneur nous demande, nous, maintenant? Ça, c'était, je pense que c'est le plus, à part le Seigneur lui-même qui a donné son fils, je pense que le Seigneur n'a jamais demandé à une autre personne, à part Abraham, de donner son enfant. Personne n'est passé par là, sauf Abraham. Mais nous, qu'est-ce que le Seigneur nous demande de lui offrir? C'est notre vie. Notre vie, mais c'est tellement compliqué de lâcher prise, c'est tellement compliqué d'écouter, d'obéir, parce que on voit à gauche, à droite, il y a des choses qui nous attirent, il y a des choses que nous aimerions faire, il y a des choses qui nous aimerions avoir, mais en ayant ces choses, ça nous détourne de Dieu, ça nous éloigne de Dieu. Mais on ne veut pas lâcher pareil. On sait que on doit changer, mais c'est difficile. C'est difficile de pouvoir faire confiance à Dieu, dire, OK, moi, je laisse tomber. Je te laisse tout. C'est toi qui vas gérer finalement. Parce que si on se fie sur l'attitude d'Abraham, Il a dit, je sais pas, Dieu pourvoira. Dieu va amener un agneau. Mais il savait que Dieu lui avait demandé son fils. Mais à son fils, il a dit, ah, il va apporter quelque chose, un agneau. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. C'était pas un agneau, c'était un bélier, mais Dieu a pourvu. Pourquoi? Parce que Abraham lui avait fait confiance. On va lire dans Matthieu 19, Matthieu 19, à histoire de d'un jeune homme qui avait eu la grâce de côtoyer le Seigneur, mais qui a été vraiment comme ça a été difficile, comme je disais, de lâcher prise, de suivre le Seigneur. Ah, c'est un jeune homme qui était riche, qui faisait de bonnes actions, qui aidait les gens, et qui vient voir Jésus-Christ et lui demande, mais qu'est-ce que je peux faire pour hériter du royaume des cieux? Jésus le regarda et dit, OK. L'a trouvé sympathique d'ailleurs. Même dans la parole de Dieu, Matthieu 19, 21, il dit, Jésus lui dit, dans certaines versions, il dit, J Jésus lui trouva le voix et les mains. Là, je suis dans la version Louis II qui dit, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. OK. Si on lit un peu les versets en haut, ça va nous dire que le jeune homme disait que il donnait aux pauvres, il aidait les gens. Et tout ce que le Seigneur lui disait, il dit, ah, je le fais déjà. Mais il y avait quelque chose qui restait. Il y avait quelque chose qui le bloquait, qui ne pouvait pas cohabiter avec la présence de Dieu. Il aimait son argent. Il aimait être riche. Il aimait être admiré. Il aimait être reconnu. C'est ça qui le bloquait. Et c'est pour cela que le Seigneur le regarda et bien, Dieu sonde nos cœurs, il sait ce qui est derrière, même ce que nos yeux ne voient pas, lui, il va voir. Et il regarde dans son cœur, il voit que cet homme-là, ce jeune homme, est vraiment, son cœur et son cœur est tourné vers son argent. C'est bien. C'est bien matériel, sa richesse mondaine. Et là, le Seigneur lui dit, va et vends tout ce que tu as. Ça fait un choc dans sa tête, à tel point que le gars, il a dit, ah non, ah non, ah non, 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 tu peux pas me demander ça. Pourtant, le Seigneur lui dit, tu auras un trésor au ciel. Qu'est-ce qui peut être important pour nous qu'est le ciel? Qu'est-ce qui peut nous empêcher vraiment d'aller au ciel ici-bas? Est-ce que c'est des maisons? Est-ce que c'est des millions d'argent? Sachant que quand on meurt, on n'emporte rien. C'est juste les vêtements qu'on nous met et puis on nous met dans le cercueil et hop, on est parti. Les milliardaires, ils laissent leurs milliards dans les comptes en banque. Et qui va profiter de tout cela? Des fois, ils n'ont même pas d'enfants, ou même s'ils ont des enfants, ils se sont disputés, ils se parlent plus, et du coup, ils les ont déshérités. Et c'est tout cet argent qu'ils ont amassé, tous ces trésors qu'ils ont amassés, ça se retrouve dans les fiducies, dans les compagnies qui vont les gérer, qui vont dispatcher et donner aux œuvres caritatives. À quoi vraiment ça sert finalement? Parce que oui, quand on est en vie, on contemple le compte rempli, on contemple ce qu'on a amassé. Ah, c'est pour cela que la parole de Dieu nous dit que tout cela, ça rouille. Tout ce trésor-là va rouiller un jour. Ça va rouiller comment? On va partir et on va les laisser ici. Et qui va profiter de ça? Sur ma part, nous. Nous serons déjà partis. Mais est-ce que ce trésor-là est plus important que celui qui est au ciel? Parce que celui qui est au ciel, c'est éternel. C'est un trésor éternel. Quand on est au ciel, ça va être éternel. Ici, on y passe quelques années. Ceux qui vivent longtemps, c'est autour de 100, 100 ans. Et c'est fini. Mais au ciel, ça va être éternellement là, le trésor. Mais le jeune homme n'a pas compris ou n'a pas voulu se débarrasser de tout ce qui le bloquait, sa richesse, sa vie ici, son niveau social, son statut social. Il n'a pas voulu lâcher ça. Pourtant, ce sont des choses qui auraient pu être remplacées par quelque chose d'unique, le salut. Parce que le Seigneur lui parlait du salut. Mais le jeune homme ne voulait pas. Il n'a pas voulu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tourné les talons. Il est reparti. Ça, c'est quelque chose que nous devrions nous aussi voir. On devait se poser la question, qu'est-ce que le Seigneur me demande de lâcher? Parce que des fois, on est là, on demande à Dieu, je veux ça, je veux ça. Pourquoi on se pose des questions, pourquoi telle chose ça tarde, ça. On a prié, on a jeûné, on a fait quoi, quoi, quoi. Mais on n'a pas toujours la réponse, ou du moins la réponse que nous voulions. Parce que même quand le Seigneur ne nous répond pas, c'est déjà une réponse. Mais des fois, on n'est pas satisfait de cette situation et on continue à poser des questions, poser des questions. Mais quand le Seigneur nous parle, quand le Seigneur nous dit, fais ça d'abord. Et là, on est comme, et non. Ou on est là à hésiter ou à râler, comme dirait mon fils, à râler. Et on perd du temps. On vient devant le Seigneur, comme ce jeune homme-là, et dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Je veux ça. Et quand le Seigneur te dit, ah, débarrasse-toi de ça. Est-ce que c'est ton entourage qui te bloque? Change de compagnie. Ah non, on se connaît depuis l'enfance. Ou on se connaît depuis 20 ans, 30 ans, 50 ans. Je ne peux pas les lâcher maintenant. Et quand le Seigneur te demande, oh, il y a certains comportements. Je dis, mais c'est ma nature. Je peux pas changer, je suis comme ça. Et on commence à discuter ou à négocier avec le Seigneur, ou voire même tourner les talons comme le jeune homme, parce que la réponse que nous avons reçue ne nous convient pas. Pourtant, on veut quelque chose de lui, mais quand il nous dit de je veux dire, comment dire, de faire la place à ce que nous demandons, on ne veut rien savoir. C'est le seul sacrifice qu'on nous demande de faire. On ne nous demande pas de. Dieu ne nous demande pas de donner nos vies. Jésus-Christ l'a déjà donné. Dieu ne nous demande pas de donner nos enfants. Dieu nous demande juste de changer. Mais c'est tellement difficile. Des fois, il y en a qui abandonnent, qui disent, non, je peux pas laisser ça. Mais pourtant, c'est un petit sacrifice que le Seigneur nous demande de faire. Et quand on compare à ce que nous allons perdre par rapport et on compare avec ce que nous allons gagner, aucune comparaison. Ce que nous allons gagner, c'est tellement grand, immense par rapport à ce que nous allons perdre. Si c'est la compagnie, Dieu, quand on a Dieu comme compagnie, c'est meilleur, tellement meilleur. Quand on a besoin de certaines personnes et qu'on s'éloigne de ces personnes, Dieu va prendre cette place-là. Dieu nous demande de faire un tout petit sacrifice pour que nous soyons totalement à lui. Et quand nous sommes totalement à lui, c'est incroyable ce qui va se passer. Tout doit changer, tout va changer. Et tout ce qui était bloqué, débloqué. Les maladies, on est guéri. On témoignait tout à l'heure, les guérisons, la délivrance, et même ce que nous cherchions, que nous n'arrivions pas à avoir, ça va venir. Ça va venir parce qu'il n'y aura plus de blocage. Il n'y aura plus des portes ouvertes par lesquelles l'ennemi va passer pour venir bloquer nos vies. Mais qu'est-ce que nous faisons, nous, quand Dieu nous demande de changer de comportement? Ah, on va commencer à dire c'est notre nature. Bah, je ne peux pas changer, c'est ma nature. Bien sûr que tu peux. Quand Dieu te demande peut-être quitter son travail, tu vas dire, ah non, mais comment est-ce que je vais faire? Je vais payer mes factures. On a vraiment des comportements qui ne plaisent pas à Dieu quand il s'agit de faire un effort, de faire un sacrifice afin que le Seigneur opère. C'est même pas, ça ne devait même pas être un sacrifice, appelé un sacrifice, parce que ça n'a rien à voir avec le Seigneur, c'est un autre avantage. C'est notre bénéfice. C'est quand on demande à quelqu'un de faire un sacrifice, c'est-à-dire que la personne ne gagne rien. Mais en ce qui nous concerne, on parle de sacrifice, mais c'est nous qui bénéficions de ces actes-là. C'est nous qui bénéficions de cette obéissance. C'est pas Dieu. Dieu nous attend et dit: on est là à toujours venir, ah papa, ceci, cela, la réponse à... Mais lui, il est là, il nous attend aussi. S'il t'a dit de faire quelque chose, s'il t'a dit de changer ta façon de parler, au lieu de te maudire, tu te bénis. Si il t'a dit de changer de compagnie, s'il t'a dit de changer de comportement, s'il t'a dit de changer des choses que tu faisais avant et que qui bloque ta vie, des péchés dans lesquels on se trouve et puis on reste là-dedans, on veut pas sortir. Tout cela, ça bloque et on continue à harceler le Seigneur. Ah, je t'ai demandé ça, j'attends toujours la réponse. Oh, on vient, on jeûne et on oublie ce que le Seigneur veut. On oublie ce qu'il nous a dit. Mais on veut harceler, on veut forcer. Dieu est juste. Il ne va pas changer parce que tu es là matin, midi, soir, papa, c'est ça, 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 ça. Non. Si tu as dit d'arrêter de mentir et que tu continues à mentir, ça ne va pas marcher. Si tu as dit de ben, je sais pas quoi, en tout cas, il y a plusieurs choses que le Seigneur demande de changer et que si on ne veut pas le faire, ça va continuer à bloquer la réponse. C'est pour cela que Dieu Quand il te donne une directive, c'est vraiment dans notre intérêt, dans ton intérêt, de suivre cette directive. Parce que pourquoi le Seigneur nous demande de changer des choses? Pourquoi le Seigneur nous demande d'enlever dans nos vies à certaines couches, de faire le ménage? C'est parce que toutes ces choses qu'il nous demande d'enlever, ça ne peut pas cohabiter avec lui. Ça ne peut pas cohabiter avec son esprit. Et quand ça ne peut pas cohabiter, qui va partir? Certainement pas le diable. Non. Lui, il va s'incruster, il va rester. Parce qu'il sait pourquoi il reste là. C'est le Saint-Esprit qu'on va attrister, il va partir finalement. C'est Jésus-Christ qui va partir. Parce que maintenant, ce n'est même plus des choses externes. On est dans la personne même, à l'interne. Parce qu'avec la nouvelle alliance, Christ habite en nous. Mais avec tout ce que nous avons comme bagage et que le Seigneur nous demande d'enlever, que nous ne voulons pas lâcher, Christ ne va pas être avec nous, ne va pas être en nous. Il va partir. Et quand il part, c'est le chaos qui reste. C'est l'ennemi qui reste. Et l'ennemi ne veut pas qu'on soit joyeux. L'ennemi ne veut rien savoir de ce que nous pouvons recevoir de notre Père céleste. Il va faire tout pour bloquer. C'est pour cela que tout ce que le Seigneur nous demande, le petit sacrifice que nous pouvons faire, c'est vraiment dans notre intérêt. On va lire dans Romains 12. Romains 12, verset numéro 1, qui nous dit, c'est Paul qui parle, c'est Paul qui donne un conseil, dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Paul disait que il faut offrir notre corps comme un sacrifice. Mais ce n'est pas notre corps seulement, c'est tout notre être qui doit être offert comme un sacrifice à Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on doit totalement être à Dieu. On doit totalement nous abandonner à Dieu. Pas seulement notre corps, mais tout notre être. Que nous soyons convaincus que nous sommes avec le Seigneur. Si nous ne sommes pas convaincus, il faut demander au Saint-Esprit. Il faut demander au Saint-Esprit, est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois changer? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois enlever, abandonner? Est-ce qu'il y a un comportement que le Seigneur n'aime pas? C'est ça ce que le Seigneur nous demande. Un petit sacrifice, minuscule, mais nous n'arrivons pas à le faire quand même. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est quoi aujourd'hui? Du moins, ce que le Seigneur m'avait mis à cœur, c'est vraiment de nous examiner, de revoir. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous passent sous le nez. Il y a des saisons qui passent, des saisons qui passent, des saisons qui passent. Et on est toujours à la même place. On n'avance pas, les saisons nous passent sous le nez. Et on devient découragé après parce on ne voit pas le résultat. On dit on a donné nos vies à Dieu, à Christ, mais normalement, ça ne devait pas rester pareil. Il devait y avoir des changements, il devait y avoir des fruits, il devait y avoir des choses palpables. Mais si on a donné la vie à Christ, il y a de cela 5 ans, et qu'on est à la même place, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. D'où l'examination, l'introspection. On s'examine, on s'introspecte. On demande au Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le sacrifice? Comment je puis-je offrir, m'offrir un sacrifice à Dieu? Par où commencer? Quoi faire? Où? Quand? Toutes ces questions, il faut se les poser parce que c'est très important. Les gens sont frustrés maintenant. Quand on regarde les gens du monde, on croirait que les enfants de Dieu sont les moins nantis, sont les moins bénis. Mais c'est justement ça. Parce que dans le monde, c'est l'ennemi qui règne. Et l'ennemi va faire en sorte de laisser un peu ceux qui sont dans le monde avancer pour justement tromper. Et on va dire, ben, finalement, vous qui avez choisi le Seigneur, vous n'avez rien. Mais ça ne devait pas être notre partage. La pauvreté, les maladies, toutes ces choses, le Seigneur a dit, tout est accompli. Qu'est-ce qui était accompli? Qu'est-ce qui a été accompli à la croix quand Jésus-Christ s'est donné lui-même en sacrifice? C'était le sacrifice ultime pour que nous ne puissions pas, pour que Dieu ne puisse plus nous demander, ah, je veux telle, telle chose en sacrifice. Le sacrifice ultime a été payé. C'est ça qui a été fait. Ce que le Seigneur avait demandé aux enfants d'Israël dans le temps, dans l'Ancien Testament, le bétail, les oiseaux, les végétaux. Nous, on est tellement bénis, on n'a plus besoin de toutes ces choses. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est sacrifié, qui a donné sa vie, Christ, pour nous. Il n'y a plus de sacrifice à faire. La seule chose qu'il nous demande, c'est de vraiment changer. Offrir nos vies comme sacrifice. Mais ce n'est pas pour aller mourir à la croix. Dieu ne veut plus du sang parce que le sang a été versé. Il veut que nous changions nos comportements. Il veut la communion avec lui. Il veut que nous soyons en communion avec lui. Il veut que nous soyons proches, très proches. C'est la seule chose qu'il nous demande. Et si on fait un effort pour le faire, c'est à notre avantage de toute façon. Mais le problème, c'est que les enfants de Dieu, sont tellement distraits. Ils regardent à côté, ils voient quelqu'un qui va même pas à l'église, qui ne connaît même pas, qui ne reconnaît même pas Jésus-Christ comme sauveur, en train de monter, 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 monter. On commence à se poser des questions. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Bien sûr qu'on a fait le bon choix. Parce que ce que l'autre a à côté, il va laisser ça là. Il va laisser ça. Mais toi, quand tu vas partir, il y a un trésor au ciel qui t'attend. Mais cela ne veut pas dire qu'ici-bas aussi, on est obligé de vivre dans la misère ou de vivre infirme ou peu importe les problèmes. Oui, on traverse ces choses, mais on n'est pas censé rester là-dedans. D'où les saisons, changement de saison. Les saisons, oui, ici, par exemple, au Québec, on passe quelques mois en hiver, mais l'hiver finit par passer. On rentre au printemps, le printemps finit par passer, l'été, ainsi de suite. Avec les choses de Dieu, c'est la même chose. On n'est pas censé rester là-dedans. On peut passer On peut traverser à travers, ça s'appelle une épreuve. Ou sinon une formation. Moi, je les appelle formation. Et après ça, on avance, on avance, on avance. Mais plus on avance, on doit remarquer des changements. S'il n'y a pas de changement, on doit se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai raté? C'est ça qui fait que ce corps dont Paul parle, cet être qui doit être sacrifié, va être un sacrifice de bonne odeur. Quand on va se présenter devant le Seigneur, dire, oh, viens mon enfant. Il va être joyeux, il va être content de nous voir, il va être fier de nous, comme il parlait de Job à Satan. Il a dit, t'as vu mon serviteur Job? Il n'y a point d'autre comme lui. Et nous aussi, quand on va venir vers lui, ça va être pareil. Il va être tellement fier de nous. Mais est-ce que c'est ça le but? Non. Son but, c'est vraiment d'être proche de nous. Son but, c'est vraiment de nous bénir. Son but, c'est de nous faire du bien. Parce qu'il dit que il a formé des projets depuis notre naissance. Mais pourquoi ces projets ne se réalisent pas, ne se concrétisent pas? Parce qu'on n'est pas rendu au stade où on offre nos vies, où on offre nos corps en sacrifice. Comme je disais, c'est même pas un sacrifice. Parce que c'est nous qui allons gagner là-dedans. Donc faisons un effort. Demandons à notre Père qu'est-ce qu'il faut faire, comment le faire, quand le faire. Parce que c'est notre intérêt, c'est dans notre intérêt de pouvoir faire ces choses et de pouvoir arriver à un moment où on dit, oui, je suis rendu où je peux dire, j'ai offert ou j'offre mon corps, mon âme, mon esprit, mon cœur en sacrifice. Et que ce sacrifice puisse avoir une bonne odeur devant le Seigneur. Voilà ce que j'avais à vous partager. Je vous le donne au nom de Jésus-Christ. Amen.